Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, je pense que vous m'entendez. Très bien, alors aujourd'hui on a une séance sur la question de la ville. Alors j'ai rajouté territoire, mais ça va être sur la ville en règle générale, et la question de la cité aussi. Oui, alors là, je vous ai fait un petit PowerPoint parce que je voulais vous montrer des photos. Il y en a deux ou trois, vous verrez. Et puis, je vous ai mis aussi certaines citations, certains points de plan qui vous aideront à suivre. Donc, voilà, c'est une petite variante. Après, je suis pas un pro du PowerPoint, donc vous m'excuserez sur la dimension technique qui parfois est pas super, mais bon, voilà, écoutez, on tente une variante. Alors, sur la question de la ville, pourquoi c'est une question importante en sciences humaines? Parce que c'est avant tout un lieu où les individus vont pouvoir faire de la politique. Alors la politique, hein, on peut estimer que c'est une activité qui existe depuis les débuts de l'humanité, hein, si on considère que le propre de la politique, ben, c'est de décider ensemble de règles, de normes communes. Bon. Vous connaissez tous, hein, cette célèbre phrase d'Aristote, qui dit que le propre de l'homme est d'être un animal politique. Hein, zone politikon. Bon. Donc la ville, ça va être un lieu propice à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Grecs, hein, ils parlent de la ville entendue au sens de polis. Hein, la polis, P-O-L-I-S, qui va d'ailleurs donner le terme de politique. Le terme de politique, il vient en fait directement de la notion de cité. Alors, est-ce que la cité, c'est une ville? Ben, pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc ça, on va le voir, hein, dans cette séance aujourd'hui. Ce qui est sûr, par contre, c'est que toute conception de la ville renvoie à une dimension politique. Renvoie à une dimension politique au sens large, c'est-à-dire à une vision du monde, à un cosmos. Alors, on va voir quatre points en particulier. Donc, tout d'abord, la notion de ville en tant que telle, pour un premier point. Ensuite, les conceptions de la ville dans l'histoire, parce qu'on va voir que la notion de ville, eh bien, elle va évoluer, comme toute notion d'ailleurs, hein, toute notion évolue dans l'histoire. Ensuite, on va s'intéresser aux contemporains et on va voir que l'urbanisme, qui est la science de la ville, eh bien, peut être constitué de différents mouvements idéologiques aussi. Donc là aussi, c'est pour bien vous montrer, hein, c'est un petit peu le fil rouge de tout ce séminaire, que la technique, encore, hein, est toujours liée à une certaine conception du monde, une certaine conception du politique, hein, et qu'il n'y a pas de technique neutre, a priori. Donc deux mouvements urbanistes contemporains, et enfin quelque chose sur ville et écologie. Parce qu'évidemment, eh bien, c'est la notion d'écologie est devenue centrale aujourd'hui, tant au niveau international, hein, comme le montrent les préoccupations, y compris par les plus grands États, hein, les G8, G20, etc., les sommets de la Terre, et ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, en France, la question de la transition écologique. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour la ville? Quelles sont là encore les différentes conceptions qu'on peut avoir de l'écologie en rapport à la notion de ville? Et on va voir qu'il y a plusieurs aussi notions différentes, plus ou moins radicale, plus ou moins politique. Alors, tout d'abord, comme dans un premier temps, la ville comme notion. Alors, tout d'abord, on peut opposer la ville au village. On peut opposer la ville au village, dans, précisément d'ailleurs, dans leur rapport à la nature. Dans leur rapport à la nature, c'est-à-dire que le village, a priori, eh bien, il va être, dans un premier temps, avant tout, déterminé, voire soumis par la nature. Le village fait partie d'un écosystème. Donc c'est pour ça que l'activité de production, a priori, va être liée notamment à l'agriculture. Donc je vous ai mis des citations d'un géographe qui s'appelle Pierre Lavédan, hein, et qui dans Géographie des villes, alors ça date déjà un petit peu, mais de 1936, ça me paraissait assez pertinent, hein, il dit qu'il y a ville quand l'homme domine la nature et réussit à s'en affranchir. Donc la ville est ce qui échappe à son milieu physique. A contrario, la nature va commander le village. Et donc c'est l'inverse pour la ville. Et il ajoute, hein, ces difficiles et continuelles victoires sur la nature ne peuvent être remportées par l'individu agissant isolément. D'où le second caractère de la ville, rançon du premier, un organisme où rien ne compte devant l'intérêt collectif exprimé par une loi, où une règle est imposée par tous. Donc là, on retrouve la dimension proprement politique de la ville, hein, avec l'idée de loi et de règles imposées par tous. Il y a l'idée, si on reprend la tradition philosophique grecque, là encore, que la ville ou la police, eh bien, s'émancipe de la nature, hein, la nature en grec qui est traduite par physis, physis ou physis. Et donc le propre de l'homme, ça va être de progressivement s'émanciper de la nature, qui va contenir, en fait, tout ce qui relève du non-humain. Du non-humain, c'est les entités naturelles, les animaux, etc. Avec la ville, il va y avoir une distinction de l'homme et du non-humain. Donc avec la ville, avec la police, émerge l'homme doué de logos. Du logos, de la parole. Alors là aussi, il faut faire attention à la conception de ce qu'on appelle le logos. Le logos, ce n'est pas que le langage. Le langage au sens de parler. Parce que dans une certaine mesure, on peut dire que beaucoup d'animaux sont dotés d'une forme de langage. C'est-à-dire, sont dotés d'un moyen de communication. Il ne s'agit pas que de cela quand on parle du logos chez les Grecs qui vont faire la spécificité humaine. Le logos est un moyen de communication, mais c'est aussi et surtout un moyen de discussion et de délibération. C'est un moyen de discussion et de délibération, c'est-à-dire que on va partir du principe, eh bien, que les hommes ne sont pas nécessairement d'accord sur la finalité de leurs actions. Les hommes ne sont pas nécessairement d'accord sur la finalité de leurs actions. Et donc, pour discuter de pour déterminer ces finalités, eh bien, il faut discuter. Et donc cette discussion, eh bien, elle va se faire au sein d'un espace qui est la police, la cité. Et là, je ne distingue pas la ville de la cité. Je les confonds. Alors, vous avez mis la citation aussi d'un grand historien de précisément de la cité, hein, d'un ouvrage, hein, qui s'appelle La cité à travers l'histoire, Lewis Mumford. Lewis Mumford, qui lui insiste sur le fait que une ville, ce n'est pas un gros village. Une ville, ce n'est pas un gros village. Autrement dit, par un simple agrandissement, le village n'aurait jamais pu devenir une cité. Donc il va y avoir un véritable changement qualitatif, un changement d'ordre symbolique. Lewis Mumford, il va parler, hein, de la matérialisation d'un cosmos sous l'égide de ses dieux. La matérialisation d'un cosmos sous l'égide de ses dieux. Puisque avec le village, il y a l'idée que il y a une forme d'osmose, une forme d'osmose avec la nature, et donc des rapports égalitaires avec les non-humains, avec les esprits, etc. Avec la ville, il y a véritablement l'idée d'une fondation. Il y a l'idée d'une fondation. J'allais dire presque d'une fondation d'ordre théologico-politique. Une fondation d'ordre théologico-politique, c'est-à-dire que la ville va être créée par un pouvoir à la fois politique et religieux. La ville va être créée par un pouvoir à la fois politique et religieux. Et donc ça, Lewis Mumford le développe pas beaucoup. Mais en fait, ça s'explique par l'idée que la ville va aller de pair, en tout cas à sa naissance, avec l'idée de royauté sacrée. Elle va aller de pair avec l'idée de royauté sacrée. Alors, quel est le propre de la royauté sacrée? Comment émerge la notion de royauté sacrée? Pour faire vite, relativement simple, avec l'idée de village, on a un chef. On a un chef de village. On a un chef de village, mais qui a un pouvoir, somme toute, relativement limité. Il a un pouvoir très limité. Dans les sociétés animistes, hein, on va dire que le chef se contente de rappeler la loi des ancêtres. Il se contente de rappeler la loi des ancêtres et il n'a même pas le droit de partir à la guerre, par exemple. Donc il n'a pas de pouvoir coercitif, il n'a pas de pouvoir de commandement. Donc c'est pas une autorité politique qui est complètement détachée de la société. Il est avant tout soumis à la société, il est, j'allais dire, pris en sandwich, hein, entre la société et la loi des ancêtres. Ça va être avant tout un médiateur. Un médiateur entre la société et la religion, la loi des ancêtres. Et donc, il est le chef d'une société homogène, hein, d'une tribu. D'une tribu ou d'un petit peuple. Alors tout va changer avec l'arrivée du roi sacré. Alors pourquoi l'arrivée du roi sacré? Parce que dans la plupart des mythes, il y a l'idée que le roi vient toujours d'ailleurs, il vient de l'étranger. Il vient d'ailleurs et donc il est le représentant d'un autre peuple. Il est le représentant d'un autre peuple, souvent un peuple plus riche, et donc qui vient d'un autre village. Et ce roi, pour devenir roi, eh bien, va créer une alliance avec le chef du village dans lequel il arrive. Et souvent, il va se marier avec la fille du chef du village en question. Et souvent, le peuple du village dans lequel il arrive est moins riche que son peuple à lui. Donc en fait, vous allez avoir dans ce qui est encore un village, la cohabitation de deux peuples différents. Vous allez avoir la cohabitation de deux peuples différents, et au-dessus de ces deux peuples, eh bien, donc vous allez avoir un roi sacré. Et donc pourquoi il est roi sacré? Parce qu'il ne, d'une part, il ne commande plus un seul peuple, donc un peuple homogène, mais en fait, il va en commander deux qui vont constituer une sorte d'État, ou en tout cas de population, mais hétérogène, avec des rapports sociaux souvent asymétriques. Donc en fait, souvent, ces deux peuples, ils vont constituer, pour faire très vite, l'idée de deux classes sociales ou de deux fonctions sociales différentes. Alors il y a un cas historique un peu assez emblématique, d'ailleurs, qui va donner lieu à de sacrés problèmes. C'est le cas du Rwanda, par exemple. Le cas du Rwanda. À l'origine, en fait, les Tutsis donc arrivent au Rwanda et en fait c'est un peuple de pasteurs qui possèdent de riches troupeaux. Et donc le chef des Tutsis va créer une alliance avec le chef des Hutus, qui constitue un peuple paysan, et donc qui sont considérés comme inférieurs aux Tutsis. Et alors, le roi, enfin le chef des Tutsis va devenir le roi sacré du Rwanda. Et donc le propre du roi sacré, ça va être de gérer des rapports de force, des équilibres de différents peuples qui ont des fonctions sociales différentes. En l'occurrence, avec le Rwanda, ça va être les pasteurs et les agriculteurs. Donc, dans une ville, le propre d'une ville aussi, c'est qu'elle va être traversée par une certaine forme d'hétérogénéité. Elle va être hétérogène avec souvent deux peuples qui vont la traverser. Et donc, à la tête d'une ville, eh bien, vous allez avoir un roi sacré. Qui va devoir gérer donc les rapports de force au sein de cette ville. Donc quand le roi sacré arrive, hein, il y a l'idée qu'il fonde la ville. Il va la fonder. Donc souvent on va parler des mythes de la fondation de telle ou telle ville. Alors un des plus célèbres, c'est la fondation de Rome, hein, avec Romulus et Rémus. Alors, j'en ai zappé un. Voilà. Voilà. Alors, un autre auteur qui est très, très important, deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un auteur qui s'appelle Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, qui était un grand historien, et qui va écrire un ouvrage très important qui s'appelle La Cité antique. Et qui donc va essayer de comprendre aussi hein, comment se forme la cité. Donc ça, voilà, ça rejoint ce que je vous disais hein, avec cette l'idée que la cité, ça va être non pas le village avec une tribu. Une société homogène, mais ça va être l'alliance de plusieurs tribus ou de plusieurs sociétés. Donc lui, il dit hein, que la cité se forme, donc la tribu comme la famille et la fratrie étaient constituées pour être un corps indépendant puisqu'elle avait un culte spécial dont l'étranger était exclu. Donc deux tribus ne pouvaient pas se fondre en une seule puisque leur religion s'y opposait, puisque chacune avait son culte propre qu'elle ne pouvait pas renier. De même que plusieurs fratries s'étaient unies en une tribu, plusieurs tribus purent s'associer entre elles à la condition que le culte de chacune d'elles fût respecté. Et le jour où cette alliance se fit, la cité exista. Donc il y a l'idée, hein, en tout cas dans l'Antiquité, du respect de la pluralité des cultes hein, en fonction des tribus qui se sont alliées entre elles. Alors, cette affirmation, elle peut être à nuancer aussi, dans la mesure où souvent il va y avoir une lutte des dieux, y compris au sein de la cité. Il va y avoir une lutte des dieux. Et en fait, au bout d'un moment, eh ben, il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. Alors, c'est ce qu'on retrouve particulièrement dans les cités grecques, hein, où chaque cité avait son dieu. Chaque cité était identifiée à un dieu en particulier. Donc, vous aviez tout le panthéon des dieux grecs, hein, mais chaque cité était associée à un dieu en particulier. C'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans l'Empire romain aussi. L'idée que chaque cité hein, peut exercer son propre culte. Mais là, du coup, ça se fait dans le cadre de l'Empire. Dans le cadre de l'Empire où on va estimer que, eh bien, il faut déléguer du pouvoir à chaque cité de manière à ce qu'il n'y ait pas de révolte, de manière à ce qu'il n'y ait pas de sédition. La seule condition étant que chaque peuple ou chaque cité fasse allégeance à l'empereur. Mais en tout cas, l'idée principale chez Fustel de Coulanges, hein, c'est que avec la ville, on n'est pas en présence d'un peuple homogène. On n'est pas en présence d'un peuple ou d'une tribu unique. On est vraiment dans une pluralité de tribus, dans une pluralité de société ou de peuple. Un point de la cité, évidemment, c'est les Grecs qui vont en donner la définition la plus poussée, notamment Aristote, qui voit donc le site naturel de l'épanouissement de l'existence humaine, puisque elle a une dimension éminemment politique. Alors il va dire qu'une cité n'est pas une communauté de lieux établis en vue d'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Une cité est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique. Donc, chez les Grecs, il y a ce qu'on appelle un télos de la ville, un télos de la cité. C'est-à-dire une fin. Une fin à laquelle tous les citoyens doivent aspirer. Donc il y a l'idée de bien commun, qui ne se réduit pas, donc comme il le dit, à l'échange marchand. Il y avait même cette idée chez les Grecs, hein, que les villes, pour accomplir leur télos, c'est-à-dire leur finalité comme bien commun, devaient être le plus éloignées possible du rivage. Alors pourquoi elles devaient être le plus éloignées possible du rivage, entendu du rivage de la mer? Eh bien parce que les villes près de la mer sont les villes les plus enclines à faire du commerce. Mais qui dit commerce dit immédiatement potentialité de corruption. Parce que quand les individus font du commerce, c'est avant tout pour leurs intérêts particuliers. Et quand les individus, eh bien, marchandent, eh bien, ils vont avoir tendance à oublier la cité. Ils vont avoir tendance à oublier le bien commun de la cité. Je vous rappelle que notamment pour les Grecs, hein, mais pas que, l'idée de cité va être associée à l'idée de guerre. Elle va être associée à l'idée de guerre. D'ailleurs, les Grecs, hein, ne vont pas arrêter de se faire la guerre entre eux, entre cités. Notamment entre Athènes et Sparte. Alors pourquoi la guerre est si importante pour les individus de l'Antiquité? Elle est si importante, eh bien parce que la cité, c'est un tout, c'est un collectif qui prime toujours sur l'individu. Autrement dit, l'individu n'est rien sans la cité. Et quand je dis rien, c'est presque au sens littéral du terme. Pour les Grecs, il n'y a pas pire châtiment que ce qu'on appelle l'ostracisme. L'ostracisme, c'est quand un citoyen va être déchu de ses droits et expulsé de la cité. Il n'y a rien de pire parce que là, l'individu est, j'allais dire, comme un poisson hors de son bocal. Et surtout, il y a une dimension de honte qui va s'ajouter à l'expulsion de la cité, à la déchéance des droits. Donc en fait, même un citoyen grec, il préférera largement la peine de mort à l'ostracisme. Parce qu'au moins, avec la peine de mort, on garde la notion de dignité. Donc, la guerre va permettre d'éprouver d'éprouver le courage des citoyens et leur capacité à mourir pour la cité. Donc la guerre, c'est presque une sorte de test, j'allais dire. La guerre, c'est ce qui permet aux citoyens de savoir s'ils sont dignes de leur cité. Et donc, pour ça, ils doivent être prêts à donner leur vie sans hésitation. Alors, Aristote rajoute sur cette notion de d'autarcie. Notion d'autarcie qui est très importante, qu'on va pouvoir retrouver dans une grande partie de l'histoire des villes, d'ailleurs. Cette idée que la ville, c'est avant tout un espace autonome, indépendant. C'est un espace autonome et indépendant. Ah, vous savez que chez les Grecs, hein, la notion d'autonomie est centrale. C'est cette capacité de se donner à soi-même sa propre loi. C'est vraiment quelque chose de central chez eux, l'autonomie. Donc c'est se donner à soi-même sa propre loi, c'est ne pas être le vassal de quelqu'un, c'est être capable d'être autosuffisant. Il y a la notion, derrière la notion d'autarcie, il y a la notion d'autosuffisance aussi. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans l'Antiquité, le travail a toujours été mal considéré. Alors, c'est ce que je vous avais expliqué hein, lors d'une séance. Le travail a toujours été considéré comme relevant de l'esclavage, parce que cela suppose une certaine dépendance, alors, dépendance par rapport à la nature, mais c'est pas ça le plus important, ça va être une dépendance par rapport souvent à un supérieur. Soit par rapport à un supérieur, soit par rapport à un consommateur, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver des débouchés pour écouler la marchandise, où on va travailler pour quelqu'un. Et du coup, il y a une dépendance de fait qui se crée. Le seul métier qui va trouver une certaine valeur aux yeux des individus de l'Antiquité, c'est l'agriculteur. L'agriculteur, pourquoi ? Parce que, précisément, il est autonome, il est autarcique. Il est capable de pourvoir à ses propres besoins grâce à sa production. Bah, d'une certaine manière, on va retrouver ce même idéal dans la ville. Une ville, elle doit être capable d'être autarcique, c'est-à-dire d'être autosuffisante et de pouvoir pourvoir à ses propres besoins. Donc dans la ville, c'est pour ça que vous allez avoir toute une gamme de métiers différents. Et dans l'idéal même, il ne doit pas y avoir besoin de créer des échanges avec d'autres villes. Dans l'absolu, une ville doit pouvoir être autarcique. Alors, un point sur la ville et le christianisme. Donc, la ville et le Moyen-Âge pour faire vite. Alors, assez vite dans le christianisme, il y a eu une conception négative de la ville. Une conception négative de la ville qui souvent a été assimilée à Babylone. Babylone, cette célèbre ville de l'Antiquité, avec l'idée aussi de la tour de Babel, qui est une tour dont les hommes avaient cette idée un petit peu folle de la faire monter jusqu'au ciel. Donc, dans le christianisme, il va y avoir une idée, l'idée que la ville relève d'une sorte de démesure de l'homme, de démesure de l'homme qui veut égaler Dieu. D'autre part, il peut y avoir cette idée que dans la ville, il y a une dimension chaotique. Une dimension chaotique, ça grouille de monde. Il va y avoir en son sein des échanges marchands très importants. Donc méfiance aussi par rapport aux marchands. Parce que la ville, c'est le lieu par excellence de l'échange des marchandises. Tandis que le village va être lié à l'agriculture, au travail de la terre. Et donc dans le christianisme, il y a une méfiance par rapport à ça aussi. Donc plus que la ville, ce qui va importer pour les chrétiens, c'est la notion de cité. Un petit peu comme pour les Grecs, d'ailleurs. La notion de cité. Notion de cité, donc, qui ne se confond pas avec la ville au sens romain. La ville, au sens romain, c'est l'urbs. U-R-B-S. L'urbs. Qui va donner, d'ailleurs, le terme urbanisme. Donc les chrétiens, ils vont insister davantage sur la notion de cité plus que sur la notion de ville, qui ne les intéresse pas plus que ça. Et donc pour qu'une cité devienne viable, eh bien il faut un idéal régulateur. Il faut un idéal régulateur, c'est-à-dire qu'il faut un modèle. Il faut un modèle, et ce modèle, eh bien, c'est la cité de Dieu. Hein, la cité de Dieu, donc, la cité de Dieu, c'est le bien. La cité de Dieu va incarner le bien. Avec tout un tas de vertus, on appelle les vertus théologales. Avec notamment la notion de charité, hein, qui vient de caritas en latin. Donc vous allez avoir la cité de Dieu et la cité des hommes. Hein, donc c'est Saint Augustin. Dans un gros ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu, il va décrire cette relation. Donc le propre du christianisme aussi, ça va être d'opérer la distinction du temporel et du spirituel. Dans les cités antiques, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que les dieux, bien, ils sont dans la ville. Ils incarnent la ville. Au Moyen-Âge et dans le christianisme, il n'y a plus cette identité. Il n'y a plus cette fusion. Il y a véritablement une distinction. Une distinction de la cité des dieux et de la cité des hommes. Alors, distinction ne veut pas dire séparation, pour autant. Et il doit y avoir des liens. Des liens, mais là encore, il ne doit pas y avoir de fusion. Alors, ce lien, d'ailleurs, très concrètement, il est incarné par l'Église. C'est l'Église, comme institution, qui va permettre, j'allais dire, cette navette entre la cité de Dieu et la cité des hommes. Mais cela ne va pas aller sans heurts, d'ailleurs. Parce que durant toute l'histoire du Moyen-Âge, eh bien, en fait, vous avez une tension, voire parfois une opposition, entre l'Église et le pouvoir politique temporel. Et donc, pendant tout le Moyen-Âge, va se poser la question de qui a l'ascendant sur qui. Est-ce que c'est le roi qui doit gouverner le pape, ou est-ce que c'est le pape qui doit gouverner le roi? Ou est-ce qu'il doit y avoir une sécession entre les deux, avec le pape qui s'occupe du spirituel et le roi du temporel, sans qu'il y ait de lien? Bon. Et donc il va y avoir tout un tas de configurations possibles hein, tout au long de l'histoire du Moyen-Âge, avec plus ou moins des renversements de rapports de force. Sachant qu'au début, en effet, c'est plutôt l'Église hein, qui va avoir un ascendant sur les souverains. C'est l'Église qui va avoir ce droit, ce pouvoir de reconnaissance du droit divin des souverains. Donc c'est le pape qui va attester de la souveraineté des rois. Mais petit à petit, il va y avoir un détachement hein, de la royauté vis-à-vis de la papauté qui va finalement donner lieu à la modernité, c'est-à-dire à une séparation totale du temporel et du spirituel. Bon. En tout cas, il y a cette idée hein, que la cité des hommes eh bien, doit s'élever vers la cité de Dieu, doit de plus en plus lui ressembler. Pour pouvoir, à terme, eh bien, accéder au paradis dans un autre monde, après la mort. Donc il y a une fonction presque religieuse de la ville, qui est liée au salut. Tout en ayant conscience de cette distinction. Hein, du temporel et du spirituel. Et d'ailleurs, pour aller vers un endroit, donc vers la cité de Dieu, eh bien, il faut bien avoir conscience que cette cité de Dieu n'est pas déjà là, donc il ne peut pas y avoir fusion. Pour aller vers quelque chose, il faut bien que cette chose ne soit pas déjà présente. Alors, petite parenthèse, petit développement sur la notion d'utopie. Au XVe, XVIe siècle, va apparaître la notion d'utopie et par là même la notion de ville utopique. Ou de cité utopique, ou de cité idéale. Alors ça va aller de pair avec l'émergence de ce qu'on appelle l'humanisme italien, de la Renaissance, qui va de plus en plus s'intéresser à l'Antiquité. il va y avoir cette idée d'un retour aux Grecs et aux Romains dans la Renaissance, hein, qu'on va retrouver partout d'ailleurs, hein, aussi bien dans les théories politiques que dans l'art, que dans plein de choses. Bon. Et ça va toucher aussi l'idée de ville, l'idée de cité. Donc à la fin du Moyen-Âge, hein, au début de la Renaissance, il y a cette idée que bah, finalement la ville du Moyen-Âge, très concrètement, c'est devenu une sorte de ville romaine qui se dégrade, qui devient sale, qui devient inhabitable. Bon. Donc il y a l'idée de redonner une sorte d'éclat à la notion de ville et surtout de cité. Mais pas de cité au sens idéaliste, hein, comme l'idée de cité de Dieu. Vraiment de revoir cette conception au sens à la fois très concret, c'est-à-dire au sens d'un urbanisme, d'un nouvel urbanisme, et à la fois aussi dans un sens politique. C'est-à-dire qu'on va lier à la fois l'urbanisme et la politique. Alors, inaugurant ce courant de l'utopie, il y a un auteur que vous connaissez peut-être au moins de nom qui s'appelle Thomas More. Vous avez déjà entendu parler de Thomas More? Ouais? Thomas More. Thomas More, c'était un Anglais, qui d'ailleurs plus tard sera canonisé. Maintenant, on peut parler de Saint Thomas More. Non. Et alors, Thomas More, il écrit un petit livre, hein, que vous connaissez tous, là encore de nom, qui s'appelle L'Utopie. Alors, l'utopie, c'est une île, mais c'est aussi une ville, c'est aussi une cité, qui est organisée d'une manière bien particulière, c'est-à-dire de manière complètement harmonieuse, avec un plan urbain qui est bien spécifique, alors qui n'est pas du tout dans l'idée de rues tortueuses, etc. On va être au contraire dans des avenues rectilignes, bien claires, et qui forment donc un tout harmonieux avec des maisons aussi, des habitations qui le sont tout autant. Alors pourquoi il écrit cette utopie, Thomas More? Alors, déjà, il faut savoir que la notion d'utopie, à l'origine, c'est avant tout un genre littéraire. Quand on parle d'utopie, à l'époque, c'est un genre littéraire. Alors, je veux dire, pour une raison aussi toute simple, c'est qu'à l'époque, il est très compliqué de faire des essais politiques. Parce que dès lors que vous écrivez un essai politique, bien, vous êtes immédiatement sous le coup de la censure, en tout cas potentiellement. Et il se trouve que l'utopie, bah, précisément, a avant tout une fonction critique. Donc l'utopie, en deux mots, c'est une fiction qui a une fonction. C'est une fiction qui a une fonction, celle de critiquer la société contemporaine. Alors, celle de critiquer la société contemporaine. Donc en l'occurrence, hein, la société anglaise du XVIe siècle, et notamment la monarchie absolue. Critique de la monarchie absolue, critique de la société en statut. Critique de la société en statut, ça veut dire quoi? Ça veut dire critique d'une société hiérarchique où vous auriez un ordre naturel, où chaque individu est à sa place. Mais dans cet ordre hiérarchique. Donc c'est pour ça que vous avez des aristocrates. Un aristocrate s'inscrit dans un ordre naturel, dans la mesure où il est supérieur, par exemple, à un paysan. Donc il est naturellement, intrinsèquement, supérieur à une multitude d'autres individus. Il va avoir naturellement le pouvoir de commander. Alors Thomas More, il commence à remettre en question cette idée avec son utopie où il va considérer que les individus sont les égaux les uns les autres. Donc il va introduire dans la notion d'utopie et dans son plan d'urbanisme aussi, puisque toutes les habitations sont égales les unes les autres, il va introduire dans son idée d'utopie donc l'idée d'égalité. L'idée d'égalité entendue au sens où chaque individu va concevoir l'autre comme un semblable. Et donc il va remettre en cause radicalement l'idée d'une hiérarchie naturelle. Et ça va se retrouver donc dans son idée de ville sur l'île d'Utopie. Alors pourquoi j'ai écrit aussi analogie avec l'état de nature, c'est que l'idée d'utopie va émerger grosso modo, même si c'est un petit peu avant, mais elle va émerger grosso modo aussi avec l'idée de l'état de nature qu'on va retrouver chez les théoriciens du contrat social. Et l'état de nature, c'est quoi? C'est aussi une fiction qui a une fonction de critique de la société. Les théoriciens du contrat social estiment que, en effet, l'idée d'état de nature, c'est une fiction. Ça n'a pas existé réellement dans l'histoire. Mais c'est une fiction qui va permettre de se projeter pour concevoir, d'une part, ce qu'est la nature humaine, et d'autre part, à partir de cette nature humaine, comment on va pouvoir concevoir le meilleur gouvernement. Donc d'une certaine manière, il y a une analogie entre état de nature et utopie, dans la mesure où l'utopie sera davantage liée à une dimension littéraire, d'autre part, elle sera en aval, c'est-à-dire qu'elle va, elle va constituer ce que les hommes peuvent imaginer être, parce que l'état de nature sera en amont, ce sera les conditions, de ce qu'on appelle la nature humaine, pour ensuite pouvoir imaginer ce qui peut être. Donc on a l'état de nature en amont, c'est l'idée en gros d'une anthropologie humaine, ce qu'est la nature humaine. Et vous avez l'utopie en aval, c'est-à-dire à partir de cette anthropologie, comment concevoir le meilleur gouvernement, la meilleure cité, la meilleure ville. Bon. Et donc ce qui va être important aussi dans cette notion d'utopie et de ville utopique, c'est que c'est le produit de l'imagination. C'est le produit de l'imagination. Alors, je parle d'imagination radicale, dans la mesure où, en quelque sorte, c'est une création à partir de rien. C'est une création à partir du cerveau de leurs auteurs. Ils ne veulent pas rattacher nécessairement l'idée de leur ville, l'idée de leur cité, à une histoire, à des traditions, etc. On va être dans une création radicale, c'est-à-dire dans comme le terme utopie d'ailleurs le désigne, c'est un lieu de nulle part. C'est un lieu de nulle part, donc qui peut être détaché de toute condition historique ou matérielle. Et donc là, l'imagination peut être la plus débordante possible, j'allais dire. Il n'y a aucune, il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune contrainte d'ordre historique ou matériel. Et ça, cette idée, elle est très importante parce qu'on va pouvoir la retrouver beaucoup dans l'urbanisme moderne. L'idée, presque, on peut concevoir une ville à partir de concepts totalement nouveaux qui feraient table rase du passé. Il y a l'idée, hein, là encore, qui est très moderne et qui parfois va être développée par les révolutionnaires, cette idée de table rase du passé. Et donc dans la création totale du futur et de certains modèles politiques. Alors, il y a un célèbre socialiste utopique qui s'appelle Étienne Cabet. Étienne Cabet, donc là je vous ai mis un petit passage de son ouvrage principal qui s'appelle Voyage en Icarie. Donc Icarie, c'est un petit peu l'équivalent de l'utopie de Thomas More. Et donc il imagine l'idée de Icara ou Icarie. Comment la concevoir ? Alors il écrit, hein, « Imagine d'abord, soit à Paris, soit à Londres, la plus magnifique récompense promise pour le plan d'une ville modèle, un grand concours ouvert et un grand comité de peintres, de sculpteurs, de savants, de voyageurs qui réunissent les plans ou les descriptions de toutes les villes connues, qui recueillent les opinions et les idées de la population entière et même des étrangers, qui discutent tous les inconvénients et les avantages des villes existantes et des modèles et des projets présentés, et qui choisissent entre des milliers de plans modèles le plan modèle le plus parfait. Tu concevras une ville plus belle que toutes celles qui l'ont précédée. Tu pourras de suite avoir une première idée d'Icara, surtout si tu n'oublies pas que les citoyens sont égaux, que c'est la République qui fait tout et que la règle invariablement et constamment suivie en tout, c'est d'abord le nécessaire, puis l'utile, enfin l'agréable. Donc dans ce passage, vous avez énormément de choses. Donc, l'idée que vous avez une multitude d'individus qui peuvent participer à la création d'une ville, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui des experts, hein, ils parlent de savants, de voyageurs, de sculpteurs, d'experts en leur matière. L'idée qu'il y ait la possibilité même d'étrangers qui puissent participer, ça aussi c'est très moderne, hein, puisqu'auparavant, hein, la ville, c'est avant tout la ville d'un peuple en particulier. Bon. Et l'idée qu'à partir d'une multitude de modèles déjà existants, eh bien, on puisse faire la sélection. Donc l'idée de sélection, elle est très moderne aussi, hein, que parmi des modèles existants, on puisse créer du nouveau, donc en sélectionnant. Alors avec des plans modèles, hein, l'idée de plans modèles, et cette idée à la fin, hein, dont il parle, alors là aussi qui est très moderne, on ne parle plus du tout de bien, de finalité, de bien commun de la cité, etc., bon, ou même de politique, on parle avant tout du nécessaire, puis de l'utile et enfin de l'agréable. Le nécessaire, l'utile et l'agréable. Et là, en fait, vous avez toute la modernité capitaliste, là, en fait, hein, ou utilitariste. Donc, c'est les besoins, satisfaire les besoins, nécessaire, l'utile, Donc là, on est dans le registre purement économique. Et l'agréable. Et là, c'est l'économie des loisirs. Donc c'est vraiment un passage très, très significatif. Qui donc va inaugurer l'urbanisme contemporain. Ah oui, alors, une utopie moderne, il y en a plusieurs, hein, mais une qui est assez flagrante, c'est donc Brasilia, que vous connaissez tous aussi, j'imagine, au moins de nom, qui est devenue la capitale du Brésil, qui la devient donc, dans les années 60, alors que c'était déjà prévu à la fin du 19e siècle, avec cette idée qu'il fallait rééquilibrer les territoires et arrêter la lutte entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Et donc, le président brésilien, Juscelino Kubitschek, donc il assurait aux Brésiliens 50 ans de progrès en 5 ans. Alors, avec un projet qui a été réalisé par des architectes qui se réclamaient de Le Corbusier. Alors ça, je vais y revenir aussi, parce que Le Corbusier, vous connaissez aussi de nom, hein, j'imagine, c'est une figure centrale dans ce qu'on va appeler un des deux courants de l'urbanisme, qui est l'urbanisme moderne, et j'allais dire qui est un petit peu un héritier d'Étienne Cabet. Si on veut faire un petit raccourci. Alors sur Brasilia, qui se voulait vraiment être une ville complètement moderne, en l'occurrence qui n'était héritière de rien. C'est-à-dire qu'on a construit Brasilia sur une terre vierge. En fait, l'équivalent de 1000 jours. Donc rien, en à peine 3 ans. Mais qui, par la même occasion, a demandé un sacrifice de nombre de travailleurs très important, puisqu'ils devaient travailler d'arrache-pied 24 heures sur 24, et donc il y a eu... En termes social, alors que ça se voulait être aussi une utopie sociale, ça commençait relativement mal. Alors, voilà, je vous ai trouvé une photo, peut-être pas la meilleure, mais bon, il y a cette idée, vous voyez, ça c'est un monument assez emblématique hein, de Brasilia, en l'occurrence c'est une église. Vous voyez l'aspect moderne de la chose, en tout cas qui se veut moderne. Alors, j'en viens aux deux mouvements urbanistes contemporains. Alors, il y a le courant moderniste, donc qui va s'inscrire avant tout dans la pensée progressiste des Lumières. Donc, ce qui compte... avant tout, c'est la raison, la rationalité, la création, l'imaginaire aussi, l'utopie. Une certaine critique des traditions ou du passé. Et d'autre part, un rejet du symbole au profit de la fonction. Rejet du symbole au profit de la fonction, parce que le symbole, en gros, va être assimilé, pour faire très vite, au religieux. Le symbole, ce qui rassemble les hommes, ça va toujours être sous la bannière d'une idée, d'un signe en particulier. Bon. Donc il est toujours très compliqué de trouver un symbole qui convient à tout le monde. Donc ce qu'on va privilégier, c'est pas le symbole, donc c'est pas l'histoire non plus, c'est la fonction. Qu'est-ce qui est fonctionnel? Qu'est-ce qui va être utile aux habitants de la ville? Et donc, vous voyez bien que dans cette idée, hein, il y a aussi une idéologie derrière. Une idéologie qu'on peut qualifier d'utilitariste, si on veut, mais ça demeure une idéologie politique. Alors, il y avait un utopiste hein, qui a une phrase qui symbolise pas mal cette idée, qui dit, dénommé Ledoux, « Tout ce qui n'est pas indispensable fatigue les yeux, nuit à la pensée et n'ajoute rien à l'ensemble. Hein, » donc, il ne faut pas faire dans la fioriture, hein, mais aller right to the point, hein, ce qui est avant tout ce qui est utile pour les gens. Donc, soit dit en passant, hein, tout ce qui va relever de la fonction esthétique, on s'en fiche. Le moment que ce n'est pas utile, ce n'est pas ce qu'il y a de plus indispensable. Alors, ce qui va un petit peu normer ce courant-là, c'est ce qu'on appelle la charte d'Athènes. La charte d'Athènes qui a été créée par des urbanistes et des architectes en 1933 et qui est inspirée des thèses de Le Corbusier, hein, et donc qui va rendre compte de ce paradigme rationaliste et progressiste. Et donc on y lit, notamment hein, dans cette charte d'Athènes, pour continuer ce que je vous disais, la production la plus efficace découle de la rationalisation et de la standardisation. La rationalisation et la standardisation agissent directement sur les méthodes de travail, tant dans l'architecture moderne, la conception, que dans l'industrie du bâtiment, réalisation. Alors, ce qui est intéressant dans cet esprit-là, dans cette idée, donc là, on retrouve vraiment, ça c'est les idées de Le Corbusier. Vraiment, ça c'est la synthèse, la quintessence de Le Corbusier. Alors ce qui est intéressant, c'est que Le Corbusier, eh bien, il a travaillé aussi bien pour des idéologies totalitaires, en Union soviétique, un petit peu avec les régimes fascistes, que pour des régimes très libéraux ou capitalistes. Mais dans ces trois régimes, il y avait cette idée, à chaque fois, hein, d'une rationalité de la production qui doit être efficace. Bon, ça, c'est vraiment le point commun qu'on va retrouver dans les trois. Avec l'idée de dans une certaine mesure de satisfaire les besoins de l'individu, mais surtout que l'individu, dans la configuration de son espace, en l'occurrence de la ville, eh bien, soit le plus à même de participer à cette rationalisation de la production. Donc, c'était faire en sorte, par exemple, eh bien, que la disposition de la ville facilite le trajet de l'individu à son domicile vers son travail, par exemple. Donc avec cette idée aussi de standard, l'idée de standard qui va être très importante, le standard va être lié à l'efficacité. Il va y avoir une identité entre standard et efficacité. Ce qui est identique, en tout cas ce qui va répondre à une certaine grille, à une certaine nomenclature, hein, il y a cette idée qu'il doit y avoir des standards, donc des formes identiques qui auront été déterminées en fonction de leur efficacité. Donc on va déterminer ce qui nous semble le plus efficace comme forme d'habitation, par exemple. Et à partir de là, on la reproduira à l'identique sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'exemplaires, parce que ce sera le meilleur modèle qu'on aura trouvé. Alors, je vous ai mis là une citation un petit peu longue de Le Corbusier pour, j'allais dire, un petit peu pour enfoncer le clou, pour que vous voyez véritablement ce qu'il en est. Alors, dans la nature chaotique, l'homme, pour sa sécurité, terme très important, sécurité, terme très moderne aussi, hein, se crée une ambiance, une zone de protection qui soit en accord avec ce qu'il est et avec ce qu'il pense. Il lui faut des repères, des places fortifiées à l'intérieur desquelles il se sent en sécurité, encore. Il lui faut des choses de son déterminisme. Ce qu'il fait, c'est une création, et celle-ci contraste d'autant plus avec le milieu naturel, que son but est plus près de la pensée et plus éloigné, plus détaché du corps. Là aussi, très important, vous voyez ce dualisme radical, hein, même Descartes aurait peut-être pas osé écrire ça, hein, sur la distinction entre la nature et la pensée, le corps et l'âme, si je puis dire. On peut dire que plus les œuvres humaines s'éloignent de l'appréhension directe, plus elles tendent à la pure géométrie. La ville est pure géométrie. La ville est pure géométrie. Libre, l'homme tend à la pure géométrie. C'est pour ça qu'il y a une adéquation entre la ville et l'homme, enfin, la représentation qu'il se fait de l'homme. Il fait alors ce que l'on appelle de l'ordre. L'ordre lui est indispensable, sinon ses actes seraient sans cohésion, sans suite possible. Il y ajoute, y apporte l'idée d'excellence. Plus l'ordre est parfait, plus il est à l'aise en sécurité. Et on revient à cette notion de sécurité. Donc ce qu'il va apporter pour Le Corbusier, en gros, c'est une géométrie rationnelle qui est le produit du détachement de l'homme de la nature, avec un mépris radical de tout ce qui va relever, notamment du sensible. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est important, c'est la pensée rationnelle, et c'est la sécurité. Donc plus on serait dans un environnement géométrique, plus on serait dans une forme de sécurité, puisqu'il assimile en fait l'insécurité à la nature, entendu à la nature sauvage. Donc dès que l'homme s'est détaché de la nature et qu'il la maîtrise, plus il est capable d'être en sécurité. Alors, Lewis Mumford, hein, l'historien dont je vous ai parlé sur la construction de la cité, c'est un des premiers à relever, à critiquer cette charte d'Athènes. Alors, il a trois points, je crois, oui. Alors, déjà, il critique cette idée de standardisation, hein, comme fin en elle-même. Deuxième erreur, l'idée de la destruction du lien entre le passé et l'avenir. Hein, donc il y a cette idée de table rase aussi hein, chez Le Corbusier dans la théorie moderniste. Et enfin, troisième erreur, contre l'entassement urbain avec l'idée que voilà, bon, faut il faut des éléments les plus espacés, les plus dispersés possibles. Alors, c'est pour ça que Le Corbusier, notamment, aimait bien construire sur des terrains vierges, hein, parce qu'il y a cette idée de table rase dans la mesure où il n'y a pas de passé. Hein, sur un terrain vierge, il n'y a rien. Et donc, à partir de là, là où ça peut prêter à confusion, le propos de Mumford, c'est que Le Corbusier n'était pas contre l'idée de concentration même. Non. Et notamment, toutes les bares qu'on a en banlieue, c'est à partir d'une idée de Le Corbusier aussi. Avec d'ailleurs des noms qui sont en règle générale des antonymes de la réalité. Hein. En fait, souvent, plus le nom de la ville nouvelle se voudra, comment dire, nouveau, utopique, etc. Et en fait, moi, la ville tiendra son ce pari. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de cités, c'est la cité du paradis, la cité du renouveau, la cité de... Et en fait, ce sont des vieilles villes complètement décrépies et laissées à l'abandon. Alors, donc vous avez tout un courant d'architectes et d'urbanistes hein, qui vont rejeter ces thèses et qui vont redécouvrir, hein, alors d'une part l'histoire, qui vont critiquer la standardisation, donc en redécouvrant l'enchaînement baroque des rues, des places, qui vont redécouvrir aussi la notion d'environnement qui avait été complètement abandonné par Le Corbusier. Et donc ce courant, il va donner naissance dans les années 80 à ce qu'on appelle le New Urbanism, et lui qui va se concentrer sur l'architecture de la petite ville traditionnelle, notamment aux États-Unis, avec des petits lotissements résidentiels, des transports en commun, avec cette idée qu'il puisse y avoir en fait une ville à taille humaine, une ville à taille humaine qui respecte, qui soit intégrée dans un environnement. Et qui ne soit pas que dans des sur le registre d'un standard complètement impersonnel. Alors néanmoins, ce courant, il va avoir aussi ses travers, puisqu'il va inspirer certaines. Alors ce courant où il va donner la charte de l'urbanisme en 96, dont je vous ai donné un extrait. Le nouvel urbanisme considère la dégradation des centres-villes, l'expansion anarchique et incessante des zones construites, la ségrégation croissante par origine et revenu, la détérioration de l'environnement, la disparition des zones cultivées et des espaces naturels, ainsi que l'oubli de notre héritage culturel, donc le passé, l'histoire, comme étant un seul et unique challenge pour l'avenir de notre société et de son habitat. Bon. Donc là, en fait, ils reprennent, en quelque sorte, hein, tous les points que la charte d'Athènes avait oubliés, en tout cas avait complètement laissé de côté. Donc dans le principe, voilà, il y a une conception de la ville hein, là qui est beaucoup plus intégrateur de beaucoup d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans les préoccupations politiques. Alors, voilà, ce que je vous disais, c'est que ce mouvement, parfois, il va pouvoir être repris de manière un petit peu particulière. Alors, notamment, il y a Walt Disney. Walt Disney, qui visite la foire de San Francisco en 1939. Et là, il a un coup de foudre. Il trouve que il est en présence d'une mini-ville, donc sans voiture, avec des petits pavillons à taille humaine, etc. Bon. Et donc, en raison de cette révélation, eh bien, il va créer une ville en Floride, à proximité du parc Disneyland. Il va créer une ville nouvelle qui s'appelle Célébration. Célébration, donc qui se veut totalement empruntée, enfin, est inspirée en fait de ce qu'on appelle le nouvel urbanisme, hein, dont on va retrouver la charte beaucoup plus tard en 96. Après, Célébration, c'est une ville qui va être créée bien après 1939, hein, on va être plus dans les années 70-80, il me semble, hein, enfin vérifier. Mais... Voilà, alors, là il y a une image, enfin une photo, pardon, une partie de Célébration. Vous voyez, il y a quelques arbres, du petites fontaines, les gens ils se baladent à pied, bon, avec des bâtiments. En fait, ça ressemble beaucoup à la ville de Val d'Europe. Vous voyez Val d'Europe, pas très loin d'ici en plus, qui est à côté de Disneyland Paris. Ben, c'est le même principe. En fait, Val d'Europe est une nouvelle ville qui va être créée à partir de ce modèle de célébration hein, près de la Floride. Donc avec cette idée aussi qu'il n'y a pas de voiture, les individus eh bien, sont dans un environnement à taille humaine. Bon. Mais en fait, très vite, bah, on va s'apercevoir qu'il y a un côté un peu toc, un peu, comment dire, un peu village. Alors, dans l'Union soviétique, on parlait des villages Potemkin. Vous savez, c'était ces villages qui étaient à destination des touristes qui venaient visiter l'Union soviétique pour pas qu'on leur montre la réalité de la vie à l'époque. Et donc les gens qui allaient dans les villages Potemkin, ils disaient, bah, c'est génial, la révolution bolchevique, elle a fait des choses formidables. Bon. Dans ces villes, il y a un petit côté village Potemkin. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a un côté fake, un côté touriste, justement. Qu'on va beaucoup retrouver, d'ailleurs, dans un film, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle The Truman Show. The Truman Show avec Jim Carrey, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille, qui est cette idée hein, de petits villages harmonieux avec ces petites maisons les unes à côté des autres, où les gens aussi sont en grande partie à pied. Bon. Et on se rend compte qu'en fait, eh bien, ce village, c'est tout simplement une création à partir de rien, donc une création ex nihilo. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi ce côté, cette dimension un peu fake, c'est-à-dire que ce sont aussi des villes qui n'ont pas d'histoire, hein, qui n'ont pas de passé. Et donc on se rend compte hein, dans The Truman Show que c'est en fait une ville qui fait l'objet d'un show télévisé, hein, qui est observé par des téléspectateurs extérieurs. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est pour le nouvel urbanisme. Alors, on va dire souvent que la ville emblématique du mouvement moderniste, ça va être une ville aujourd'hui comme Dubaï, hein, qui va être beaucoup dans le fonctionnel, dans le marchand, etc. Tandis que la ville du nouvel urbanisme va être davantage des villes comme Célébration ou comme Val d'Europe. Voilà, Célébration s'est exportée en France sous le nom de Val d'Europe, c'est ce que je vous disais. L'État y a confié à l'entreprise Walt Disney un monopole. Voilà, il y a le côté aussi très économique aussi, hein, très marchand, avec un monopole sur les équipements hôteliers et sportifs notamment. Donc maintenant on ne parle plus d'Euro Disney, on parle de Disneyland Paris. Mais voilà. Alors il y a le phénomène de privatisation des villes aussi. Hein. Privatisation des villes, alors avec l'idée même que c'est un peu une image, mais que des villes pourraient être cotées en bourse. Alors c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver notamment en Inde actuellement, avec l'idée que, étant donné que les espaces urbains se développent de plus en plus, eh bien il faut exproprier des agriculteurs. Alors au lieu de le faire à la manière un peu bourrin avec des bulldozers et sans demander l'avis aux agriculteurs en question, eh bien on va, ni sans racheter hein, véritablement les terrains, en fait, on va intégrer les agriculteurs dans le projet urbain. C'est-à-dire que les paysans, eh bien, en fait, vont devenir les actionnaires des entreprises qui récupèrent les terrains. Et donc, ça, c'est un mouvement aussi qui se développe beaucoup. Alors, j'en viens à la quatrième et dernière partie sur urbanisme et écologie. Alors ça, il n'y a pas encore de mouvement bien défini à proprement parler. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de charte comme on va pouvoir retrouver une charte du nouvel urbanisme ou une charte d'Athènes. Mais en tout cas, c'est un mouvement urbaniste qui va considérablement se développer, alors notamment avec l'idée de d'éco-quartier. Hein. Cette idée qu'il faut repartir du local, donc c'est-à-dire du quartier, pour pouvoir créer ou rénover. Donc on ne va pas être dans le tout de suite dans le méta, dans le gros, dans la ville. On va estimer qu'il faut partir de l'existant, là aussi pour garder l'histoire, pour garder l'âme d'une ville. En fait, il faut partir d'un existant. Donc, dans l'idée d'éco-quartier, il y a ce rejet de l'idée de table rase qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans le nouvel urbanisme et dans l'urbanisme moderne. Donc, avec l'idée d'une planification urbaine qui va être écologique, notamment avec la maîtrise des déchets. L'idée d'une implication des habitants aussi, c'est-à-dire que avec la notion d'éco-quartier, vous avez l'idée de participation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui devient de plus en plus important. Ces éco-quartiers, ils ont un développement qui demeure relativement restreint. Mais il y a cette idée, notamment, qu'à partir d'un éco-quartier, on va pouvoir redessiner l'idée d'une ville idéale. Donc c'est par capillarité, hein, en créant plusieurs éco-quartiers qui vont se copier comme modèle, et avec des échanges de bonnes pratiques, hein, qu'on va pouvoir arriver à une dimension plus globale, hein, pour reconcevoir la ville dans son ensemble. Alors, un petit peu dans le même ordre d'idée, je vais vous présenter assez rapidement les idées d'un théoricien qui s'appelle Murray Bookchin. Bookchin, qui était un Américain, qui a vécu entre 1921 et 2006, et qui, lui, va s'intéresser à deux dimensions particulières de la ville. C'est à la fois sa dimension en tant que cité, donc la dimension politique, et la dimension de l'écologie sociale. Alors, pourquoi l'idée de cité est importante selon lui? Parce que, là encore, hein, il va se référer à l'idée dans l'Antiquité que la police, la cité, a avant tout une fonction politique. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une fonction d'ordre utilitaire qui consisterait à loger les habitants. C'est avant tout un lieu où les citoyens peuvent discuter des aménagements du territoire, mais aussi des lois. Donc pour lui, il va s'agir de retrouver le véritable sens du terme de police. Il peut revenir aux sources. D'autre part, la cité, eh bien, elle transcende en fait à la fois la ville et la campagne. Donc il ne s'agit pas pour lui d'opposer les deux. Il ne s'agit pas de jouer la ville contre la campagne ou l'inverse. Et donc en cela, il est à la fois critique d'un certain mouvement urbaniste qui ne va jurer que par la ville, et à la fois d'un certain courant écologiste qui ne va, lui, jurer que par la campagne. Il va dire, mais le plus important, en fait, c'est de renforcer la solidarité sociale entre les deux, et peut-être à ce qu'il y ait des... à ce que la campagne emprunte certains éléments à la ville et inversement. Mais ce qui est important, ça va être la dimension de la cité, c'est-à-dire la dimension politique qu'on va pouvoir retrouver à la fois à la campagne et dans la ville, par la cité. Et ouais, c'est le dernier. Bookchin, lui, il va s'inspirer donc de plusieurs modèles dans l'histoire. Alors, dans le premier cas, évidemment, c'est Athènes, hein, comme cité démocratique. Ou ce qui l'intéresse là dans ce modèle-là, c'est que c'est la notion d'assemblée. Notion d'assemblée où les citoyens sont capables de discuter ensemble des lois. Et il va faire toute une généalogie hein, de cette notion de cité qu'il va retrouver, notamment au Moyen-Âge, parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'au Moyen-Âge aussi, le vote et le tirage au sort étaient deux moyens de processus politique qui étaient très développés dans les villes du Moyen-Âge. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait une démocratie déjà très développée au Moyen-Âge. Alors, ce qui l'intéresse aussi, c'est que la ville, là encore au Moyen-Âge, c'est en fait toujours opposé au pouvoir monarchique centralisé. La ville s'est toujours opposée au pouvoir monarchique centralisé et en cela, elles se voulaient garantes hein, de leur liberté, de leur autonomie. Hein, je vous parlais de l'importance de l'autarcie chez Aristote. Donc ça va être toutes les villes libres qu'on va retrouver au Moyen-Âge, notamment en Italie avec Florence, Venise, etc. Il y a un autre modèle qui l'intéresse beaucoup, et là cette fois on est au 19e siècle, ça va être avec la Commune de Paris. La Commune de Paris, donc qui est une ville. Je vous en avais déjà parlé un petit peu, je crois, de la Commune de Paris. Hein, je sais plus. Un petit peu, hein. Bon. Et donc, dans la Commune de Paris, il y a cette idée aussi hein, qu'il doit y avoir une autonomie de cette commune, que les habitants doivent participer aux affaires de la cité. Donc il y a la dimension politique, il y a la dimension sociale aussi, puisqu'il va y avoir toute une remise en question des classes sociales, du travail, etc. Mais pour Bookchin, ce qui manque encore dans ces mouvements du 19e siècle, c'est que s'il y a cette dimension politique et sociale, il manque encore la dimension écologique, hein, qui doit être intégrée dans les mouvements politiques communaux, de communes, du XXe siècle. Donc comment intégrer l'écologie dans une... à partir de la municipalité, à partir de la commune. Et donc là, il va avoir toute une critique, notamment du système économique, qui ne prend pas en compte ce qu'on appelle les externalités, hein, donc de pollution, etc. Et il estime que c'est par la fédération des communes, la fédération des municipalités, eh bien, qu'on peut avoir assez de poids politique pour contraindre les entités économiques à prendre en compte ces externalités. Donc Bookchin, hein, il va imaginer tout un système de fédération, de communes libres, hein, de communes autonomes, à partir d'une conception qu'il appelle, lui, le municipalisme libertaire. Parce que, à l'origine, il est dans un premier temps, il se réclame du marxisme, puis de l'anarchisme qu'il va teinter d'écologie. Et donc, cette notion de municipalisme, hein, eh bien, elle va connaître un certain regain depuis d'ailleurs une dizaine d'années. Alors, dans plusieurs villes d'Europe, notamment à Barcelone, y compris au Moyen-Orient, par exemple en Syrie. En Syrie, dans ce qu'on appelle le Kurdistan syrien, ou Rojava, qui est toujours en guerre civile actuellement, eh bien, c'est une zone donc de plusieurs centaines de milliers d'habitants, donc qui sont constitués de Kurdes de Syrie, et qui essaient de mettre en place ce qu'ils appellent un confédéralisme démocratique, qui lui-même est issu, en fait, des thèses de ce Murray Bookchin. Murray Bookchin ayant eu plusieurs échanges avec ce qui est leur chef des Kurdes, hein, toujours en prison, qui est Öcalan, hein, qui à l'origine était un marxiste, là encore, limite un petit peu stalinien, et puis qui a un petit peu viré de bord dans les années 90 pour renier cette dimension stalinienne et se tournant du tout coup vers Bookchin. Et donc ils vont, c'est d'autant plus intéressant que c'est une société du Moyen-Orient donc qui va intégrer notamment alors l'écologie, mais aussi le féminisme, etc., en mettant en valeur notamment les femmes qui peuvent faire la guerre. Voilà, en gros, un petit peu, hein, ce que je pouvais vous dire sur la notion de ville et dans son rapport à la politique, à l'histoire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques en particulier? Ça l'est? Ça va? C'est OK? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite un très bon week-end à vous.